Et on va parler un petit peu d'un autre sujet qui est le brevet, donc le brevet d'invention. Alors pour faire le lien avec ce que l'on a dit juste avant, avec nos magnétoscopes, hein, Ampex donc a protégé son magnétoscope par des brevets, ce qui va gêner l'arrivée des deux concurrents sur le marché en question. Donc, c'est le principe du brevet, hein, c'est de permettre un monopole d'exploitation sur l'invention que l'on a réalisée. Donc, si, comme c'est le cas ici, les brevets couvrent des principes essentiels au fonctionnement de l'équipement, ben on voit que du coup, a priori, Ampex pourrait rester tout seul sur le marché pendant une durée maximale. Aujourd'hui, c'est 20 ans. À l'époque aux États-Unis, c'était 17 ans après que le brevet a été accordé. Aujourd'hui, c'est 20 ans après le dépôt. Mais en fait, dans le cas d'Ampex, elle va choisir de ne pas conserver ce monopole d'exploitation, mais d'accorder des licences. Hein. Accorder une licence, c'est accorder le droit à une autre entreprise de produire et de vendre, puisque ce qu'on appelle monopole d'exploitation, hein, c'est l'exclusivité du droit de produire et de vendre. On va y revenir après, hein, mais on peut déjà signaler qu'un brevet, c'est territorial. Hein. Donc, en l'occurrence, c'est le droit de produire et de vendre sur le territoire sur lequel la technologie est protégée. Hein. Et donc, elle va accorder ce droit à deux entreprises. À RCA, donc qui du coup s'est fait un peu doubler sur le côté R&D, donc bah, eux ils voudraient bien quand même accéder à ce marché qu'ils avaient à l'origine l'intention de lancer eux-mêmes. Et ce qu'ils vont mettre eux dans la balance, c'est le fait qu'ils maîtrisent déjà les technologies essentielles pour la future télévision couleur. Et que Ampex aimerait bien accéder aux technologies sur la télévision couleur. Hein. Donc ça, c'est une configuration qu'on appelle un accord de licence croisée. Vous voyez, puisque c'est alors en l'occurrence, Ampex accorde une licence sur ses brevets sur le magnétoscope et à RCA, et RCA accorde en échange une licence sur ses technologies sur la télévision couleur à Ampex. Donc il y a bien des accords de licence dans les deux sens qui sont donc croisés. Et puis, concernant Sony, si vous vous souvenez, c'est quand même un détail, donc vous êtes à vrai dire assez fort si vous vous en souvenez. Mais j'avais signalé quand j'ai parlé, quand j'ai fait la petite introduction sur Sony, du fait qu'ils avaient obtenu en 1954 une licence pour fabriquer des transistors et qu'ils s'étaient fait remarquer en étant parmi les toutes premières entreprises à proposer des postes radio à transistor. Et donc, Sony, qui est encore une entreprise, alors elle a déjà grandi quand même par rapport à l'entreprise du début des années 50, mais c'est encore quand même une entreprise de taille moyenne, on va dire. Mais elle a cette maîtrise-là, elle a déjà montré qu'elle avait une bonne capacité à utiliser les transistors pour miniaturiser des produits électroniques grand public. Et donc évidemment, Ampex, qui se doute bien qu'il y aurait un marché potentiel beaucoup plus important que juste les studios de télévision, mais que évidemment on n'arrivera jamais à atteindre les particuliers si on ne fait pas beaucoup baisser le prix et si on ne parvient pas à miniaturiser les magnétoscopes. Donc se dit que bah, ça pourrait être intéressant de faire un accord avec Sony. Hein. En plus, bah, le marché japonais est assez protégé. Donc ils se doutent bien qu'à un moment donné, ils vont être limités au Japon et que ce ne sera pas forcément super facile de faire respecter leurs brevets là-bas. En outre, les entreprises japonaises avaient déjà fait la démonstration qu'elles étaient assez fortes pour contourner parfois aussi les technologies d'autres entreprises. Donc bref, il y a tout un ensemble de choses qui font que Ampex se dit que ça peut être intéressant de nouer un partenariat avec Sony pour justement sur la miniaturisation des magnétoscopes en utilisant donc les transistors. Alors ça nous amène à une nouvelle question, une nouvelle parenthèse théorique entre guillemets, sur le brevet. Est-ce que du coup, c'est bien un moyen si efficace que ça pour lutter contre l'imitation, puisqu'on voit que cette entreprise qui a priori aurait pu rester un certain temps en situation de monopole, eh bien, elle choisit elle-même d'accorder des licences à des concurrents, donc de créer deux concurrents en quelque sorte, hein, enfin de créer, de laisser entrer deux concurrents sur le marché qu'elle aurait pu essayer de garder pour elle. Donc, je vous ai donné les raisons principales, mais on va voir que derrière, il y a aussi quand même cette question de OK, mais si elle n'avait pas accordé ses licences, serait-elle vraiment restée si longtemps en situation de monopole? Alors, du coup, évidemment, pour pouvoir répondre à la question, il faut quand même savoir ce qu'est un brevet d'invention. Puisqu'on dit toujours brevet, hein, mais le terme complet, c'est brevet d'invention. C'est un titre de propriété, déjà. Et c'est un titre de propriété à durée limitée. Donc un brevet, ça dure au maximum 20 ans. Alors, je dis au maximum parce qu'en fait, on va déposer le brevet pour une certaine période. Donc, en France, c'est annuel. Donc, on va déposer le brevet pour 1 an. Et à la fin de la première année, on va décider si oui ou non on le prolonge. Si on le prolonge, on doit payer et pour le prolonger. Et donc, voilà. Régulièrement, parce que ce n'est pas annuel dans tous les pays, hein, il y a des pays où c'est des périodes plus longues, eh bien, on va être amené à se poser la question, est-ce que le brevet est suffisamment intéressant pour qu'on le maintienne en vigueur ou pas? Et donc, ne sont maintenus 20 ans que les brevets qui ont le plus fort impact concurrentiel. Alors, les conditions de brevetabilité. Ce qui va être couvert, c'est une invention. Et l'invention doit être nouvelle. Alors, logiquement, je ne peux pas voir vos réactions, mais vous pourriez vous dire, oui, enfin, en même temps, on n'a pas attendu d'être en M2 pour savoir qu'une invention, c'est quelque chose de nouveau. Sauf que, ici, nouvelle, ça a un sens spécifique. Ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir été divulguée avant. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous inventez quelque chose dans votre enthousiasme, vous présentez votre invention à vos camarades du M2 EMPI. Et ensuite, vous vous dites, je pourrais peut-être le breveter, et ben vous pouvez plus. Elle a beau être toute récente, votre invention, elle est plus nouvelle puisque vous l'avez divulguée. Et à l'inverse, Si jamais vous inventez quelque chose, un nouveau procédé de fabrication, que...
Monsieur,
Oui.
justement, j'avais une question. C'est pas en rapport aussi un peu avec l'espionnage industriel et l'espionnage d'affaires, tout ça? C'est-à-dire, si c'est divulgué en interne et que ça a fuité, est-ce que ça rentre encore en compte ce que vous venez de dire?
Alors déjà, oui, il y a des liens avec l'espionnage industriel dans les cas extrêmes et puis on va dire l'intelligence économique, on va faire plus politiquement correct. Et donc par rapport précisément à ce que je viens de dire, non. Si, alors ça dépend quelle fuite. Si vraiment vous avez été chercher l'information de façon illégale. À ce moment-là, ce n'est pas une divulgation. Hein. Donc, dans ces cas-là, ça ne va pas remettre en cause la nouveauté. Par contre, si des salariés ont été imprudents et ont laissé fuiter trop d'informations sur l'invention, bah si, là oui, ça va remettre en cause la nouveauté. Et donc, ouais, ce qui est en... donc justement, j'allais aborder le cas du secret. Donc, par contre, vous parvenez à garder le secret pendant 20 ans sur votre invention, et là, vous sentez que les concurrents sont enfin proches de trouver la même chose. Alors, c'est un exemple, c'est un peu un cas d'école parce que c'est quand même rare hein, qu'on ait une avance qui fasse que les concurrents mettent 20 ans à atteindre votre niveau. Mais bon, juste pour le principe, vous commencez à sentir qu'ils vont bientôt être capables de faire l'invention en question et donc qu'eux risquent de déposer un brevet. Puisque l'invention n'ayant pas été divulguée, eux, ils peuvent très bien déposer un brevet dessus. Et alors vous pouvez avoir intérêt à ce moment-là à déposer votre brevet. Et donc finalement, c'est pas nouveau au sens courant du terme, puisque votre invention elle a 20 ans, mais elle est nouvelle au sens juridique du terme, dans lequel on l'entend dans le cadre de la loi sur les brevets, puisqu'elle n'a jamais été divulguée. Donc, première condition, elle doit être nouvelle et voyez qu'elle n'est pas si... Enfin voilà, c'est pas enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Alors la deuxième condition pourrait paraître aussi être quasi évidente et enfoncer une porte ouverte, puisque invention, activité inventive, ça va quand même un peu avec. Mais en fait, cette condition, elle est surtout liée justement à la définition que l'on a de la nouveauté. C'est-à-dire, elle découle un peu de la première condition. Parce qu'à partir du moment où vous dites la nouveauté, c'est le fait de ne pas avoir été divulgué avant, ben vous avez des choses qui sont relativement évidentes, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation. Et donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire que des entreprises pourraient s'amuser à breveter des choses très évidentes, au moins pour les spécialistes du domaine. Et donc on voit bien que ça créerait tout un ensemble et que ce n'est pas l'intérêt de la société avec un grand S que d'avoir plein de brevets sur des choses qui sont absolument évidentes pour... c'est pour ça qu'on a aussi cette deuxième condition qui est, il faut pas que ça soit quelque chose qui soit évident pour quelqu'un qui est un peu expert dans le domaine. Il faut que ça nécessite une certaine réflexion, que ça n'aille pas de soi. Parce que sinon, encore une fois, comme l'autre critère, c'est de la divulgation, on a des choses qui sont tellement évidentes qu'elles n'auraient pas été divulguées en tant que telles. Et puis enfin, dernière condition, ça doit être susceptible d'une exploitation industrielle, donc ça veut dire que ça doit pouvoir être intégré dans un produit, dans un processus. Alors évidemment, quand on dit industriel, ça peut tout à fait être de l'activité tertiaire ou agricole, hein. C'est pas dans le sens l'industrie au sens le plus strict du terme, mais ça veut dire que ça doit pas être quelque chose... ni quelque chose qui est purement imaginaire et qu'on serait totalement incapable de produire et de proposer, ni quelque chose qui n'a aucune utilité a priori. Voilà, donc ça, on doit bien avoir derrière quelque chose qui est susceptible un jour de, je vous dis pour faire simple, être intégré soit dans un produit, soit dans un processus de fabrication. Bon, une fois que vous êtes propriétaire de quelque chose, hein, vous pouvez soit dire bah non, c'est à moi, je ne vous le prête pas. Donc bah, là, c'est quand on fait jouer son monopole d'exploitation. Dans le cas du brevet, ce n'est pas le cas de tous les droits de propriété intellectuelle, vous pouvez tout à fait garder un brevet alors même que vous n'exploitez pas l'invention qui est dessus. Alors, on est dans une fac de droit, donc si jamais il y a des collègues juristes qui m'entendent, enfin je suis enfermé dans mon bureau, normalement ils ne m'entendent pas, mais ils fronceraient peut-être les sourcils en disant, non mais là, il dit des bêtises, monsieur Corbel, Pascal Corbel, parce que, bon, la loi dit que si on n'utilise pas une invention, on peut obliger une entreprise à accorder des licences. Donc c'est tout à fait vrai, c'est ce que dit la loi, mais en fait, c'est jamais utilisé. Donc en pratique, et évidemment nous en management, c'est plus la pratique des entreprises qui nous intéresse que, eh bien en pratique, les entreprises conservent des brevets qu'elles n'utilisent pas. Et au moins pendant un certain temps, elles peuvent de toute façon toujours, si jamais la justice s'intéressait à eux, alors ce ne serait pas spontanément, hein, ce serait parce qu'un concurrent demanderait à avoir accès à l'invention en question, elle pourrait toujours dire que pour l'instant, elle ne l'utilise pas, mais que c'est parce elle fait encore des essais et que, il est fort possible qu'elle l'utilise d'ici 2 ou 3 ans. Et donc, vous voyez que. C'est pour cette raison-là qu'en pratique, c'est très très peu mis en œuvre. J'ai même, enfin, j'ai aucun exemple où ça a été mis en œuvre. Ça l'a probablement été ici ou là, hein, mais alors, il y a quand même un cas où ça pourrait l'être et où ça aurait pu l'être il n'y a pas très longtemps. C'est un cas particulier de cette. C'est le cas où il y a des enjeux de santé publique. Et donc, vous voyez que vous vous souvenez de cette époque pas si lointaine où il n'y avait pas assez de vaccins pour vacciner tout le monde contre la Covid-19. Eh bien, il y avait une certaine pression hein, des autorités pour que les laboratoires pharmaceutiques qui proposaient des vaccins fabriquent plus. Si jamais Pfizer ou Moderna avaient refusé d'accorder des licences, en fait, ils l'ont fait hein, naturellement, ils ont accordé des licences et d'autres laboratoires ont fabriqué selon leurs spécifications des vaccins. Mais s'ils avaient refusé de le faire et que ça avait créé du coup une pénurie prolongée et que bah, ça créait du coup, ça, enfin, il y avait des personnes qui mouraient pendant ce temps-là, là, les États auraient très bien pu leur imposer de le faire. Et le simple fait qu'il y ait l'épée de Damoclès peut parfois conduire les entreprises à accorder une licence en se disant, ouais, enfin, si on joue trop la montre et qu'on veut trop retarder, on va finir par nous l'imposer. Alors, les licences obligatoires, par ailleurs, c'est. Oui, alors, je mélange un peu deux choses et je ne voudrais pas vous mélanger, pardon. Là, dans le cas des brevets sur les Covid-19, les brevets étaient utilisés. Pardon, donc ce n'est pas un bon exemple. Et pour le coup, de temps en temps, il y a quelques vieux exemples de licences obligatoires imposées à des entreprises, mais sur des technologies utilisées. Et ça a notamment été le cas de Xerox, qui a été très longtemps, hein, ceci dit, en position de monopole sur le marché des photocopieurs. Mais à un moment donné, justement, les autorités antitrust lui ont imposé d'accorder des licences. Mais ceci dit, donc voilà, ça pourrait être le cas. Ben, alors typiquement, je vais prendre un cas du coup hypothétique. Imaginez une entreprise qui parvient à créer un vaccin efficace pendant une pandémie et elle négocie les prix, elle est mécontente du prix proposé par les gouvernements et du coup elle décide de ne pas fabriquer. Bah là, évidemment, des gouvernements lui imposeraient une licence obligatoire. Donc il y a quand même cette possibilité, mais ça reste une possibilité très théorique. Ensuite, bah, on l'a évoqué tout à l'heure, elle peut accorder une licence. Quelque part, accorder une licence, c'est un peu comme si on louait le droit d'utiliser l'invention en question. Et puis, bah, elle est propriétaire, donc elle peut vendre son titre. Alors, l'échanger, en théorie, bien sûr, en pratique, autant il y a assez souvent des échanges réalisés via des licences, donc une sorte de location dans les deux sens, ça c'est courant. Autant des échanges des brevets eux-mêmes, c'est-à-dire que vous devenez propriétaire de ce dont j'étais propriétaire et vice-versa. J'en ai pas d'exemple, j'imagine que ça a pu exister ici ou là, mais enfin c'est très très rare. Par contre, des ventes de brevets, ça se fait relativement couramment. Pas autant que les licences. Hein. Il est important de garder à l'esprit le fait qu'un brevet, ça fait l'objet d'une publication. Donc, pour une invention donnée, à un moment donné, vous avez le choix entre le secret et le brevet. Mais vous pouvez, si vous déposez un brevet, vous renoncez de fait au secret. C'est ce qui fait que pour certaines inventions, notamment quand les inventions, on peut garder le secret. Parce que c'est déjà la première condition, hein. Il y a certaines inventions qui sont tout à fait visibles dans un produit, il suffit de le démonter, et dans ces cas-là, évidemment, de toute façon, vous pouvez éventuellement garder le secret jusqu'au lancement du produit, mais une fois que le produit est lancé, de toute façon, il n'y aura plus de secret. Donc dans ces cas-là, vous avez plutôt intérêt, si vous en avez les moyens, à déposer des brevets. Mais à l'inverse, vous avez des cas, et notamment dans le cas de assez souvent de procédés de fabrication, mais ça peut être aussi des parties de produits qui sont très très difficiles à démonter ou reconstituer le fonctionnement est très très compliqué. Des fois, vous pouvez choisir de conserver le secret. Les avantages du secret, c'est que ça n'engendre pas les mêmes coûts que le brevet. Il n'y a pas de dépôt obligatoire, il n'y a pas de taxes à payer, il n'y a pas de conseil en propriété industrielle à payer pour rédiger le brevet, etc. L'autre avantage, c'est que bah, il ne s'arrête pas automatiquement au bout de 20 ans. Par contre, si jamais il y a des fuites, et même si c'est des petites fuites par morceaux, les concurrents risquent de pouvoir in fine le reconstituer. Hein, et là, je ne parle même pas du cas effectivement de l'espionnage industriel pur et dur où votre concurrent vient voler vos technologies. Mais même dans un cas tout à fait légal et avec une éthique des affaires correcte, il est assez normal d'essayer de glaner toutes les informations qu'on peut glaner légalement sur un. Donc, si jamais lors de colloques, lors des salariés laissent passer des bribes d'informations, vous prenez les bribes. Hein. Si après vous embauchez des salariés de l'entreprise en question. Là encore, je ne parle pas du cas des salariés qui arrivent avec les secrets sous le bras, parce que c'est quand même rare et problématique, mais néanmoins, un salarié qui passe d'une entreprise à l'autre, on ne lui efface pas le cerveau. Donc il y a forcément des moments où, par exemple, s'il est confronté à un problème technique, il va le résoudre d'une certaine manière auquel n'avaient pas pensé ses collègues, et s'il va le faire de cette façon-là, c'est parce que ça faisait partie de la façon dont ça se faisait dans l'autre entreprise, si bien que les savoir-faire, ils circulent comme ça d'une entreprise à l'autre, donc ce n'est pas vraiment le secret en tant que tel, mais vous voyez qu'à force de combiner des morceaux d'informations qui sont sortis, ce que vous pouvez récupérer parfois comme information dans le produit, plus le savoir-faire d'éventuels salariés que vous avez embauchés, parfois, à force, Vous pouvez, sans encore une fois aller chercher des méthodes illégales, vous pouvez tout à fait reconstituer le secret d'une autre entreprise. Et donc, bah, c'est pour ça que c'est souvent assez fragile. Et puis, c'est risqué parce que, bah, une fois que le secret est éventé, bah, du coup, là, vous n'avez cette fois plus aucune protection. Et notamment, vous avez un risque un peu spécifique, c'est que votre concurrent qui a réussi à reconstituer votre secret, je rappelle donc que comme vous ne l'avez jamais divulgué, eh bien, c'est toujours nouveau. Et donc, votre concurrent, il peut lui décider de déposer un brevet. Et là, en France, vous pouvez encore faire valoir, si vous pouvez prouver que vous utilisiez déjà l'invention avant, etc., il y a ce qu'on appelle un droit de possession antérieur qui vous permet de continuer à utiliser votre invention. Mais il y a beaucoup de pays, je pense qu'ils sont majoritaires, dans lesquels, une fois que votre concurrent a déposé un brevet, bah, il peut carrément vous empêcher d'utiliser ce que vous aviez inventé, puisque c'est lui qui détient le brevet, donc le monopole d'exploitation. Pour terminer sur le brevet, globalement, pour répondre un peu à la question, hein, bah, les études disent plutôt non. Alors, ce n'est pas non tout le temps, évidemment, qu'il y a des entreprises qui ont réussi à garder longtemps des situations très fortes sur des marchés. Bon, j'ai déjà cité Xerox, vous connaissez sûrement Polaroid pendant très longtemps sur la photo instantanée. En France, il y a Tefal qui avait réussi à inventer un procédé pour fixer le téflon sur l'aluminium. D'où leur nom, hein, et qui avait déposé un brevet dessus. Et donc, je pense que ça a dû, ils ont réussi, je crois, à garder ce monopole d'exploitation jusqu'à la fin de la vie du brevet. Et donc, ils ont pendant très très longtemps été les seuls à pouvoir proposer des poêles avec un revêtement en téflon. Mais d'une manière générale, c'est plutôt ce que je viens de citer, c'est plutôt des exceptions que le cas le plus courant. Alors pourquoi? D'abord parce que la plupart des brevets peuvent être contournés. Je l'ai volontairement pas, enfin, je dévoile peu un peu les aspects du brevet pour pas vous faire une sorte de. Enfin, c'est pas un cours juridique, donc l'idée c'est pas de vous donner toutes les caractéristiques juridiques des brevets d'un coup. Mais on dit aussi assez souvent, pour définir un brevet, que c'est une solution technique à un problème technique. Alors déjà, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais sachez que ça donne lieu à des interprétations différentes d'un pays à l'autre. Donc il y a certaines choses, par exemple un algorithme utilisé dans un logiciel, c'est considéré comme une solution technique à un problème technique aux États-Unis, mais pas en Europe. Du coup, il y a des brevets purement logiciels aux États-Unis. En Europe, vous pouvez avoir des brevets qui concernent beaucoup des logiciels, mais intégrés à des systèmes techniques. Mais surtout, comme ça couvre une solution technique à un problème technique, si vous arrivez à trouver une autre solution au même problème, eh ben, vous allez contourner le brevet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer un produit quand même. Je crois que je l'écris dans les diapositives plus loin, mais c'est, j'anticipe un peu, c'est ce qui se passera de toute façon avec le magnétoscope. Du coup, c'est un bon exemple. En fait, bon, il y a Sony et RCA qui pourront donc commencer à en fabriquer tout de suite, puisqu'ils ont des licences. Mais il y a d'autres entreprises qui, à partir de 1963, donc, vous voyez, ça permet quand même, ça leur a fait, il leur a fallu 7 ans pour que la majorité, enfin, pour que plusieurs acteurs du marché arrivent à contourner complètement les brevets de RCA. Donc, c'est relativement long, hein, c'est déjà un avantage très conséquent, hein, quand vous pouvez rester soit en monopole si vraiment ils avaient choisi de pas accorder de licence, soit en position de. Très forte comme c'est ça va être le cas, sur un marché. Ça reste très intéressant. Il n'empêche que c'est bien avant que les brevets tombent dans le domaine public. Hein, c'est l'expression consacrée quand vous arrivez au bout des 20 ans du brevet, donc vous ne pouvez plus le renouveler. Et donc là, à partir de là, tout le monde peut utiliser librement l'invention en question. Et donc, de toute façon, Ampex aurait perdu son monopole d'exploitation bien avant l'expiration de ses brevets, puisque voilà, sur ce que j'avais lu, les spécialistes estiment qu'en 1963, toutes les technologies du magnétoscope d'Ampex avaient été contournées, dont parfois avec des nouvelles inventions qui étaient plus performantes que les inventions d'Ampex. Parce que parfois, quand vous contournez une solution brevetée, bon déjà, il y a un premier, c'est est-ce que vous arrivez à le contourner vite ou pas? Donc si vous mettez du temps, bah, c'est quand même un sérieux avantage pour le détenteur du brevet. Si vous arrivez à contourner très vite, ça ne lui aura pas donné beaucoup, beaucoup. Mais surtout, bah, cette autre solution technique, si elle est moins performante, bah, du coup, le propriétaire des brevets d'origine va quand même garder un avantage concurrentiel parce qu'il sera seul à utiliser la méthode la plus performante. Si elle est à peu près équivalente en termes de performance, bah, voilà, il aura juste gagné du temps. Mais au bout du compte, il aura un. Et alors le cas qui est moins sympa, c'est évidemment quand la technique de contournement est plus performante que l'original. Parce que sûrement que le concurrent qui aura réussi à vous contourner tout en vous dépassant, déposera un brevet, lui, sur son autre solution technique au problème technique. Et du coup, vous n'aurez pas, c'est le pionnier, celui qui a en premier proposé l'invention, vous n'aurez pas forcément accès à la méthode qui est maintenant la plus performante. Donc voilà, ce que n'ont pas réussi à faire les entreprises, visiblement, pour la technique de fixation du téflon sur l'aluminium. Mais dans la plupart des cas, on y arrive. Alors, dans certains cas, on va aussi être un peu hésitant par rapport au brevet parce qu'on sait qu'on risque de ne pas voir s'il y a des contrefaçons. Et c'est pour ça qu'il y a parfois une réticence des entreprises à déposer des brevets sur des processus de fabrication. Parce que d'une part, les processus de fabrication, bah, c'est les choses sur lesquelles on peut souvent quand même plus facilement garder le secret. Donc le secret peut parfois être efficace, mais et par ailleurs, si jamais on décide de breveter, bah, le problème, c'est que ça va être très difficile de détecter le fait qu'un concurrent a copié notre processus de fabrication, puisqu'on n'a pas accès à ses usines à lui. Enfin, bon, quand même, dans la plupart des cas, les contrefaçons peuvent être détectées, mais dans ces cas-là, alors c'est au détenteur de brevet de le faire respecter, hein, donc il peut intenter une action en justice, une action en contrefaçon, puisque la contrefaçon, c'est tous les cas où vous avez une entreprise ou un particulier qui n'a pas respecté des droits de propriété industrielle. Donc souvent, quand on pense contrefaçon dans le langage courant, on pense plutôt à des contrefaçons de marque. Mais c'est bien, c'est un terme qui va être utilisé aussi pour le brevet ou pour le dessin et modèle, puisqu'il y a d'autres droits de propriété industrielle. Et donc, bah, OK, donc vous pouvez attaquer en justice, très bien, mais il faut garder à l'esprit que intenter un procès, ça coûte cher. Alors notamment, bah, la procédure américaine, c'est une procédure où chacun peut avoir accès aux pièces des dossiers de l'autre. C'est une procédure contradictoire. Donc du coup, bah, ça fait souvent que vous avez accès à l'expertise réalisée par votre... par le tiers, soit que vous êtes en train d'attaquer, soit qui vous a attaqué. Résultat, vous allez faire une contre-expertise. Votre adversaire fera faire une contre-contre-expertise, si bien que ça fait gonfler les coûts, outre le fait que les avocats spécialistes aux États-Unis sont relativement chers. On dépasse. assez facilement le million de dollars pour un procès en contrefaçon aux États-Unis. Donc vous voyez que pour une PME notamment, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Par ailleurs, vous allez passer beaucoup de temps, et notamment vos ingénieurs vont passer beaucoup de temps à expliquer en quoi cette invention-là, elle est bien différente de ce qui avait été fait avant. Parce que sinon, si votre adversaire a réussi à trouver des brevets ou des publications scientifiques où on décrit quelque chose qui ressemble beaucoup à votre invention, vous risquez que votre brevet soit annulé. C'est le risque que j'évoque après. Et du coup, évidemment, votre avocat en propriété intellectuelle, il va venir voir vos ingénieurs pour qu'ils expliquent en quoi c'est différent de ce qu'il y avait avant, ou vice-versa, qu'ils expliquent en quoi la solution mise en œuvre par l'entreprise ressemble beaucoup à ce qu'ils ont mis en œuvre dans le brevet, que donc c'est bien une contrefaçon. Et donc, toutes les heures passées par vos ingénieurs et si vous en avez vos services juridiques à préparer le procès, évidemment, ne le sont pas à faire avancer les nouveaux projets. Parfois, vos clients industriels souhaitent avoir plusieurs fournisseurs possibles, et donc si votre monopole d'exploitation est vraiment très fort, ils peuvent vous suggérer d'accorder des licences à une autre entreprise pour qu'eux puissent ensuite vous mettre en concurrence avec l'entreprise en question, voire parfois dire, écoutez, de toute façon, si après on est obligé de passer par vous, c'est non. Et puis enfin, donc j'ai évoqué le risque d'annulation, parce que oui, avant d'être accordé, un brevet fait l'objet d'un examen. Il y a un examinateur à l'office des brevets du pays dans lequel vous déposez qui va regarder si vous respectez bien les conditions qu'on a énoncées dans la slide d'avant. Le problème, c'est que lui, il a un nombre relativement élevé de brevets comme ça à traiter dans l'année, hein, donc il va faire son travail sérieusement, il va aller regarder dans les principales bases de données s'il n'y a pas des choses qui ressemblent trop, il va faire des recherches par mots-clés, etc. Bon. Mais encore une fois, il consacrer un temps et une énergie raisonnable, puisque il y a un office des brevets, ça va traiter des milliers ou des dizaines de milliers de brevets, enfin les gros offices des brevets des pays développés vont traiter des dizaines de milliers de brevets par an. Alors, pas chaque examinateur, ils ont plusieurs centaines d'examinateurs, mais quand même. Et donc, il arrive, pas si rarement que ça, hein, que lors d'un procès, on puisse annuler un brevet qui avait été accordé. Soit parce que, par exemple, l'entreprise qui est attaquée, démontre il n'y avait pas besoin de tant d'activités inventives que ça, que d'ailleurs ils ont fait telle démonstration et que en présence d'huissiers, ils ont donné le problème à résoudre à une petite équipe de 5 ingénieurs, ils leur ont donné 48 heures et en 48 heures ils avaient trouvé la solution. Donc voilà, du coup, il n'y a pas assez d'activités inventives. Ou alors, ils vont trouver un brevet qui avait échappé à la vigilance ou une publication scientifique, hein, qui avait échappé à la vigilance de l'examinateur de l'Office des brevets. Et du coup, ils vont produire le brevet pendant le procès et dire, voyez, du coup, le brevet en question n'est pas valable. Alors parfois, c'est le brevet dans son ensemble, parfois, alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais un brevet, c'est constitué de deux parties. Une partie est une description de l'invention et l'autre, c'est une partie juridique où le propriétaire du brevet définit qu'est-ce qu'il revendique comme étant les frontières de son monopole d'exploitation. Et c'est ce qu'on appelle les revendications, puisqu'il revendique un monopole sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Donc ça peut être des différentes applications, par exemple de la technologie. Ça peut être on peut très bien aussi annuler partiellement un brevet, c'est-à-dire annuler une partie des revendications. Et puis il y a un autre risque, c'est que Parfois, quand vous attaquez une entreprise, vous n'êtes pas tout à fait sûr que vous-même, vous ne contrefaites pas certains de ces brevets. Et c'est le cas notamment dans les industries où il y a beaucoup, beaucoup de brevets et où, évidemment, vous ne pouvez pas éplucher chacun des brevets de votre concurrent avant de l'attaquer. Et donc, du coup, il y a un risque, c'est que lui, voyant que vous l'attaquez, soit se mettre à démonter tous vos produits en essayant de trouver un endroit où vous-même vous l'avez involontairement, vous avez involontairement contrefait un de ses brevets, soit même assez souvent, votre concurrent risque d'avoir déjà repéré ça dans certains de vos produits. Considérez que justement, le jeu n'en valait pas la chandelle, c'est-à-dire que c'était pas sur un élément essentiel du produit, donc c'était pas très grave que vous l'ayez imité sur cet élément-là, et donc ça valait pas le coup de lancer une action en justice. Mais par contre, il a bien sûr gardé ça sous le coude. Il y a un dossier qui est prêt, et donc si jamais vous l'attaquez, alors là, il va le ressortir. Et puis, il y a des industries où on se trouve en situation d'interdépendance, c'est-à-dire que typiquement, pour sortir un smartphone, il n'y a aucune entreprise dans le monde qui détient toutes les technologies nécessaires pour sortir un smartphone qui soit à peu près, qui corresponde aux standards d'aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez sortir un smartphone d'il y a 15 ou 20 ans, mais il ne se vendra pas beaucoup. Donc la réalité, c'est que d'une part, il va y avoir souvent une certaine tolérance. Encore une fois, on ne va pas attaquer quand il ne s'agit pas de quelque chose d'essentiel, parce qu'on sait très bien que, involontairement, il va y avoir de... Et puis, il y a aussi parfois des accords de licence croisés massifs, où du coup, on va se donner des licences non pas sur un brevet contre un autre, ou les brevets de la télécouleur contre les brevets des magnétoscopes, mais sur des milliers de brevets d'un coup. Donc évidemment, tout ça, ça réduit l'efficacité, puisque quand vous déposez des brevets, finalement, vous savez que vous risquez d'accorder des licences dessus, puisque vous avez vous-même besoin d'accéder aux technologies des autres. Donc du coup, vous ne faites respecter que ceux qui vraiment vous donneraient un avantage très spécifique et où là, vous tenez à être les seuls, mais sur la majorité de vos brevets, vous êtes prêt à renoncer à votre monopole d'exploitation pour avoir accès aux technologies des autres. Et au passage, je vous ai dit que je reviendrai un petit peu, rapidement, hein, mais sur RCA, Radio Corporation of America, en fait, c'est une entreprise qui avait été créée sous l'impulsion du secrétariat de la marine américain. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y avait plusieurs détenteurs de brevets essentiels sur la radiophonie, la radio, et du coup, ça bloquait tout. C'est-à-dire qu'ils se bloquaient mutuellement et aucun ne pouvait créer des radios performantes, puisqu'il aurait fallu qu'ils mettent en œuvre les inventions de l'autre. Et donc, et comme ils ne s'entendaient pas du tout, des ennemis parfois depuis des décennies et des décennies, hein, comme General Electric et Westinghouse, par exemple, dans les détenteurs de brevets essentiels, et donc ils n'arrivaient vraiment pas à se mettre d'accord. Et donc, le secrétariat de la Marine a tapé du poing sur la table, a dit, bon, écoutez, en gros, puisque vous n'arrivez pas à signer des accords de licence croisés entre vous, eh bien, on va créer une société. Cette société, vous allez en être les actionnaires et vous allez lui accorder des licences sur vos technologies avec le droit de les relicencier. L'idée étant que si Westinghouse est un ennemi juré de General Electric et que donc ça ne favorisait pas le fait qu'ils se mettent d'accord sur des accords de licence. Par contre, personne n'est un ennemi juré de cette nouvelle entreprise puisqu'elle n'existait pas avant, donc il n'y a pas du tout de passif. Donc du coup, Bon, il y avait le poids du gouvernement aussi, hein, donc toutes les entreprises ont accepté, tous les détenteurs de brevets essentiels, ils étaient quatre, je crois, essentiellement. Donc elles ont bien accordé des licences à Radio Corporation of America, c'est donc cette société, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et Radio Corporation of America a ensuite réaccordé des licences à ces entreprises-là, qui du coup ont pu accéder aux technologies des autres, mais en passant par Radio Corporation of America. Et puis, comme elle avait des licences, donc elle avait le droit de les relicencier, donc elle a relicencié, mais elle ne s'est pas contentée de relicencier les technologies, elle s'est mise aussi à fabriquer des radios. Et donc, c'est pour ça qu'après les radios, elle s'est mise à faire des télés, et après les télés, elle a considéré que ça pouvait être intéressant de faire des magnétoscopes. Voilà la petite histoire de RCA. On va s'arrêter hein, pour ce soir. J'ai déjà beaucoup dépassé l'horaire prévu. Ça m'arrive hein, de temps en temps. Donc, ne prévoyez pas un rendez-vous à 19h10 parce que le cours est. Mais bon, j'essaye de pas le faire autant que ça. Quand même en général. Donc on va s'arrêter là et c'est mardi 7, hein? Lundi. Lundi, on se retrouve à 17h et là je vous parlerai avant de reprendre le fil de nos magnétoscopes. Je vous parlerai encore un peu de brevet, mais pour vous montrer qu'en fait le brevet ça ne sert pas qu'à se protéger contre l'imitation. Ce qui explique en partie que bien qu'il y ait ce manque d'efficacité, les entreprises n'aient jamais déposé autant de brevets qu'actuellement. Voilà, mais là, ce serait trop long de le faire ce soir. Donc, je vous libère. Enfin, vous n'êtes pas prisonnier en même temps, mais. Voilà, il y a plein de choses dans le chat. Est-ce qu'il y a des. Ah oui, non, c'est sur votre groupe WhatsApp. Ok, bah écoutez, très bonne soirée à vous. Et
Merci à
puis,
vous aussi, monsieur.
merci, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Et au revoir. Au revoir, bonne soirée.
Merci. À la